Pierre Léna, bonsoir. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Pierre Léna, vous êtes astrophysicien, vous êtes professeur à l'Université Paris 7 et vous êtes également chercheur associé à l'Observatoire de Paris-Meudon. Vous avez beaucoup œuvré sur, avec une bonne équipe, une belle équipe, sur la mise au point de l'Observatoire européen austral. Pierre Léna, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Léna, vous êtes professeur à l'Université de Paris 7, vous êtes astrophysicien avant tout, et vous êtes chercheur associé à l'Observatoire de Paris-Meudon. À ce titre, vous avez beaucoup œuvré à la conception et à la mise en place de l'Observatoire européen austral qui est situé dans les Andes chiliennes. Et en quelques mots, vous allez nous dire comment est né le projet, qui en est à l'origine et où il en est.
Bien, l'homme qui en est à l'origine, c'est Ludwig Völcher, qui a été directeur général de l'ESO pendant 13 ans et qui a été l'artisan de la conception du VLT. L'histoire est finalement assez simple. Dans les années 60, il n'y a pas d'instrument astronomique en Europe, pratiquement. La France a le télescope 293 à Saint-Michel de Haute-Provence. Et dès qu'on veut disposer d'outils de grand diamètre, on est entièrement dépendant des États-Unis. Les Européens se réveillent et dans la décennie 70 construisent plusieurs instruments de 3,60 m de diamètre. Je parle d'astronomie optique, hein, bien sûr. C'est à cette époque qu'à la fin des années 70, le télescope Canada-France-Hawaï apparaîtra donc en coopération au sommet du Mauna Kea et que les Européens s'unissent. L'acte de fondation de l'ESO date de 1962. Les Européens s'unissent pour mettre laborieusement, il faut bien le dire, au point un projet d'instrument dans l'hémisphère sud qui sera le télescope de 3,60 m de l'ESO, le premier grand instrument européen au Chili installé à La Silla. À la fin des années 70, une volonté se fait jour, pilotée par Völcher, de mettre l'ensemble des ressources imaginables, concevables des Européens, à l'époque 6 pays, que rejoindront assez vite l'Italie et la Suisse au début des années 80, de mettre toutes les ressources en commun pour construire ce qui pourrait être le plus grand observatoire du monde.
Et qu'est-ce qui a présidé au choix d'un plateau andin au Chili pour installer ces 7 instruments et puis plus tard ces instruments ?
La première sélection de sites s'est faite donc dans l'hémisphère sud. Il n'y a pas tellement d'endroits possibles dans l'hémisphère sud. En gros, si vous regardez la carte du globe, une map monde, vous apercevez que ce sont les zones désertiques, donc favorables à l'observation astronomique, sont toutes situées sur les côtes ouest des continents. Ça s'explique simplement à partir de la météorologie. Et donc, quand vous promenez autour de la Terre à une latitude voisine du tropique, pour être près de l'équateur, donc pour voir si possible les deux hémisphères, hein, autant que possible, vous apercevez qu'il n'y a guère que la côte australienne, la côte namibienne et la côte chilienne. Du point de vue de la commodité, de la desserte, de la proximité avec l'Europe culturelle aussi, le Chili s'imposait. Donc le choix était assez naturel et c'est ce qui avait conduit au choix de La Silla. Le choix du site du VLT, lui, a été longuement mûri après des campagnes de sites et le choix final du Cerro Paranal, donc, qui n'est pas très élevé, qui est sur la cordillère côtière, 2640 mètres d'altitude après qu'on ait arasé le sommet de la montagne, n'a été fait qu'après l'approbation du VLT, lorsqu'en 1987 on a choisi de s'engager dans ce projet financièrement. Il y avait encore deux options pour le site possibles.
Et ce fameux VLT, donc, qui a été décidé dans ces années-là, de quoi était constitué le projet, quel type d'instrument souhaitait-on construire au Cerro Paranal et quelle utilisation souhaitait-on en faire exactement, puisque il existait déjà ailleurs dans le monde, notamment à Hawaï, sur des sommets un petit peu plus élevés en altitude, une batterie de grands instruments. Et bien évidemment, avec le projet VLT, on souhaitait faire peut-être des choses un petit peu différentes.
Oui, alors le premier critère, c'était la surface de télescope. On voulait avoir une grande surface. Il n'existait en début des années 80 aucun instrument au-delà de 4 mètres, sauf le télescope soviétique à l'époque, de Zelenchuk, qui était un bon instrument, mais dans un site désastreux. Donc ce télescope n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire si le site avait été mieux choisi. Donc il n'existait en fait rien donc, de comparable à ce qu'on souhaitait faire avec le VLT. Le choix de la surface, du diamètre des télescopes, en fait, a résulté de ce que les ingénieurs acceptaient de concevoir comme possible avec des risques acceptables. Et c'est comme ça que le diamètre de 8,20 m a été choisi, puisque pour le VLT, on a choisi de faire un monolithe, un miroir d'une seule pièce, d'un seul tenant, une surface mince en verre, dont la conception reposait sur un instrument de démonstration qui s'est appelé le NTT, le New Technology Telescope, dont l'optique active a été le premier miroir actif qui a été réalisé par l'ingénieur Ray Wilson.
À propos d'optique active, vous pouvez peut-être nous dire en deux mots simplement ce qu'est l'optique active et ce qu'elle a apporté à la qualité des observations depuis le sol de la planète.
Si vous voulez, pour faire un grand télescope au sol, disons 8 mètres, 10 mètres, voire davantage, il n'est plus question d'avoir des miroirs monolithiques, épais, donc rigides, parce que le poids deviendrait absolument prohibitif et le coût donc excessif. Donc la feuille de verre déformable devient la solution. Soit monolithe, comme pour le VLT, 17 cm d'épaisseur pour les miroirs du VLT, soit par segment, comme pour le Keck télescope installé à Mauna Kea, qui lui fait 10 mètres et qui est fait d'un pavage de miroirs hexagonales, 64 miroirs, qui sont mobiles individuellement et dont le positionnement est donc asservi. Dans l'un ou l'autre cas, ce sont des miroirs donc légers, mais asservis en permanence pour compenser les déformations induites par le vent, la température, la gravité essentiellement. Voilà, c'est ce concept-là qui a révolutionné la construction de grandes pupilles au sol.
Un miroir de 8,20 m de diamètre et de 17 cm seulement d'épaisseur, c'est une crêpe, ça doit être extrêmement fragile, et difficile à mettre en œuvre et à utiliser, parce qu'on peut imaginer facilement qu'en fonction de l'orientation du télescope, ce miroir se déforme, donc il doit falloir récupérer en permanence la géométrie de ce miroir pour lui conserver des qualités optiques qu'il doit posséder.
Alors c'est cela même le principe de l'optique active. La feuille de verre, qu'elle soit encore une fois un monolithe ou faite d'un pavage de segments indépendants, comme c'est le cas pour le Keck, la feuille de verre est souple. Elle est fragile naturellement, mais on essaie de ne pas la casser. Il suffit de prendre un certain nombre de précautions. Mais elle est souple et donc elle se déforme. Et au fond, on est très heureux qu'elle se déforme de façon élastique, puisque les lois de l'élasticité permettent, en fonction d'une force appliquée, de prévoir exactement la déformation. Exactement, ça veut dire que la surface est positionnée à une précision qui est de l'ordre de lambda sur 30, à peu près, donc...
Excusez-moi, je vous coupe un petit peu. Lambda, je crois qu'il faut préciser ça pour nos auditeurs. Lambda, c'est ce qui quantifie la longueur d'onde de la lumière. Donc, quand on parle de lambda, on est dans des grandeurs très très petites. C'est de l'ordre de. Les lambda se mesurent en micromètres ou en angstrom. On est vraiment très très petit, très précis.
Voilà, ça veut dire que la précision finale de la parabole, hein, le miroir prend une forme parabolique, contrôlé donc par des petits vérins qui agissent sur la surface, va être de l'ordre d'une vingtaine de nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre.
Donc, Donc effectivement, ça nécessite des technologies pour fabriquer et polir ces miroirs qui sont extrêmement précises, évidemment, et puis coûteuses, cela va sans dire. Le VLT, Very Large Telescope en anglais, si on traduit son français, très grand télescope, le projet comporte à l'origine 7, voire peut-être maintenant 8 ou 9 télescopes. Pourquoi mettre autant de télescopes sur une plateforme ?
Alors, il y a plusieurs originalités dans le VLT. La première, c'est la limite de 8,20 m, finalement, qui est le miroir d'un télescope élémentaire, était une limite technologique. On ne pouvait pas faire plus. Donc, on n'osait pas faire plus. On aurait peut-être pu faire un petit peu plus, mais bon, voilà. C'est ce que les ingénieurs, à l'époque, ont choisi, 8,20 m. Alors, ensuite, on veut beaucoup de surface collectrice. Donc, l'idée est d'en faire plusieurs à ce moment-là et de les monter sur des montures indépendantes. Et le VLT a la possibilité, facilité aujourd'hui par les détecteurs de lumière qu'on utilise, que les quatre télescopes regardent le même objet astronomique et qu'on additionne les signaux produits par la lumière de cet objet, mesurés par quatre caméras, pour avoir l'équivalent d'un télescope unique de 16 mètres de diamètre. 4 fois 8 mètres de diamètre, ça fait l'équivalent de 16 mètres de diamètre. Donc ça, c'était l'idée initiale, si vous voulez. Mais on s'est aperçu très vite qu'il y avait une autre possibilité qui était de combiner la lumière, non pas en additionnant l'intensité des faisceaux lumineux, comme je viens de le décrire, mais de façon plus subtile. C'est ce qu'on appelle l'interféromètre, en combinant ces quatre miroirs de manière à avoir l'équivalent d'un télescope dont, à ce moment-là, le diamètre est égal à la plus grande distance qui sépare ces miroirs, dans le cas du VLT, 120 mètres. On n'a naturellement pas la quantité de lumière que recueillerait un télescope de 120 mètres de diamètre, mais on a la finesse de l'image. Et c'est ça la fonction interférométrique du VLT. Alors vous parliez de 7 télescopes. Alors, il y a les 4 grands qui font donc chacun 8,20 m de diamètre, qui peuvent être combinés entre eux, 2 par 2, 3, voire 4. Mais il y a aussi 3 petits télescopes auxiliaires, qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs, puisqu'ils font 1,80 m de diamètre, 4 plus 3 égale 7, et qui eux sont mobiles sur le plateau qu'elle est installée, le VLT, et qui offre la possibilité de distance de combinaison et d'orientation de base que forment ces télescopes très diverses. Et c'est cet ensemble qui forme l'interféromètre qu'on appelle le VLT interférométeur ou VLTI en abrégé.
Mais l'interférométrie nécessite qu'on combine la lumière issue de ces 4 ou 7 télescopes de façon extrêmement rigoureuse, extrêmement précise. Vous nous avez parlé de distance de l'ordre de 120 mètres. Comment peut-on réussir à combiner des lumières issues de ces télescopes avec la précision qui se situe encore une fois dans l'ordre de la longueur d'onde de la lumière? C'est extrêmement complexe dans la mesure où les télescopes poursuivent un objet dans le ciel doivent se déplacer, doivent monter, descendre, tourner. Et on peut facilement imaginer que la mise en œuvre de l'interférométrie avec autant d'instruments soit extrêmement difficile.
Vous avez tout à fait raison. L'interférométrie optique, c'est-à-dire aux longueurs d'onde petites, une fraction de micromètre, vous le rappeliez tout à l'heure, a une histoire ancienne, intéressante et toujours techniquement ambitieuse. Elle a commencé il y a plus d'un siècle, en 1868, avec l'idée géniale de Fizeau qu'on pouvait justement utiliser la combinaison de lumière recueillie à des points différents pour mesurer la taille des étoiles. Fizeau lui-même n'a pas pu construire de grand interféromètre. C'est Albert Michelson, le célèbre physicien américain, qui lui l'a fait et qui a été le premier en 1920 à mesurer le diamètre d'une étoile autre que le Soleil, malgré les vibrations qui, bien que contrôlées par un système aussi rigide qu'il pouvait le faire, étaient néanmoins très, très gênantes. Alors, ceci a été jugé tellement difficile que personne après Michelson n'a eu en quelque sorte le courage d'oser penser qu'il pourrait faire aussi bien que ce physicien expérimentateur extraordinaire qui était Albert Michelson. Il a fallu attendre Antoine Labéry, donc 1975, pour que ce jeune astronome à l'époque ose, lui, se dire qu'il pouvait y arriver, et de fait il y est arrivé. Et il a été le premier à combiner la lumière de deux télescopes indépendants. À l'époque, tout petit, une dizaine de centimètres, mais la voie était ouverte. La voie était ouverte pour que, à peine 10 ans plus tard, 85-86, on se propose de réaliser la même chose, mais avec des télescopes de 8 mètres. Alors en fait, les problèmes de stabilité, il faut que tout l'instrument soit stable à beaucoup mieux que la longueur d'onde de la lumière. Aucune vibration, aucune perturbation n'affecte la lumière à des échelles inférieures au micromètre. En fait, c'est plutôt plus facile avec des grands télescopes qu'avec des petits, car un grand télescope est par nature très lourd, très massif, même si on l'a allégé, et donc finalement, il est assez stable. Et les ingénieurs qui ont construit le VLT, aussi bien les 8 mètres que les 1,80 m, ont réussi à tenir ces spécifications de précision. On a maintenant pratiquement terminé l'ensemble, et toutes les études qui ont été faites très soigneusement pour la construction ont montré, et les réalisations l'ont confirmé, que cet objectif pouvait être tenu. Alors vous l'avez dit, c'est difficile. Mais les astronomes aiment bien la difficulté, d'une certaine manière, les difficultés technologiques. Et donc, nous savons, avec grande confiance, je crois, qu'au mois de mars prochain, l'interféromètre qui sera mis en service progressivement, d'abord avec des petits miroirs, des sidérostats de 40 cm, pour être certain que tout le dispositif de traitement de la lumière fonctionne, puis ensuite avec les miroirs de 8 mètres, et enfin, dans 2 ans, avec les 1,80 m, nous sommes très confiants sur le fait que peut-être la première nuit, on observera des franges d'interférence, puisque c'est ça qui montre que l'interféromètre fonctionne.
C'est très bien ce programme, mais quelles sont les perspectives de découverte ou d'observation nouvelles qu'elles vont offrir? Est-ce qu'on a l'ambition? Est-ce qu'on a l'espoir de voir quelque chose qu'on n'a pas vu encore jusqu'à présent?
On a plus que l'espoir, on a la certitude qu'on verra beaucoup de choses qu'on attend, et probablement, comme toujours dans la construction d'un nouvel instrument, beaucoup de phénomènes dont on ne soupçonne même pas l'existence. Tout nouveau progrès de sensibilité ou de résolution angulaire ou toute ouverture d'un nouveau domaine spectral, les rayons X, conduisent à des découvertes et d'autres tout à fait inattendues. Alors, que va nous apporter l'interférométrie optique? C'est assez facile de voir qu'on procède par étapes. Les télescopes sont limités par turbulence de l'atmosphère de la Terre à des images qui ne dépassent guère la qualité d'image que même un amateur a avec son petit télescope de 10 cm. Le diamètre des prises de lumière n'est pas plus que très élevé. Puis est venue l'optique adaptative, qui n'est pas l'optique active. Et on a gagné en droit tout à l'heure. On a eu à ce moment-là de partir. Un autre facteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Énorme. Il y a plusieurs programmes. Matière dans le système binaire, les étoiles jeunes sont entourées de disques, et on verra un des thèmes dont je parlerai ce soir, c'est la structure des systèmes de disques qui forment les planètes autour des étoiles. Depuis 5 ans, nous savons que les étoiles, en tout cas un nombre respectable d'entre elles, sont entourées de planètes. Donc on a maintenant les premiers systèmes exoplanétaires, comme on les appelle. Et l'interféromètre du VLT est un des outils parmi une palette que les astronomes mettent au point en ce moment pour faire l'image de ces planètes.
Ça veut dire qu'on va voir de visu ces planètes alors, parce que jusqu'à présent, on n'a fait que les détecter par des méthodes indirectes.
Tout à fait. Et c'est le domaine de prédilection de l'interférométrie optique, cette détection des exoplanètes. Donc nous passons en ce moment beaucoup de temps et d'énergie pour préparer à la fois les instruments et les programmes qui vont sans doute nous permettre de les détecter, sachant que la nature nous fait un beau cadeau, puisque parmi la trentaine ou quarantaine de planètes actuellement découvertes, le nombre augmente tous les jours, donc je ne suis pas tout à fait forcément à jour ce soir, mais un nombre significatif d'entre elles se trouvent extrêmes, sont d'abord des planètes géantes, de taille comparable à Jupiter ou Saturne, mais aussi se trouvent très près de leur étoile, beaucoup plus près que la Terre, même beaucoup plus près que Mercure de leur étoile. Elles sont donc très chaudes, 700, 800, 1000 degrés Kelvin éventuellement, et donc relativement faciles à détecter, mais très près de l'étoile, donc demande un pouvoir séparateur, comme on dit, très élevé. Donc l'interféromètre est en fait un outil assez idéal pour observer ces objets.
Donc l'interférométrie, le VLT, les nouvelles planètes, j'imagine que les équipes qui travaillent sur ces programmes doivent être très excitées à l'idée de recevoir très très bientôt, dans quelques mois, leur première lumière. De qui sont constituées ces équipes? Qui au fait est à l'origine du VLT, de ces projets? Un seul pays n'y suffit pas aujourd'hui.
Non, il y avait au départ 6 pays européens, j'ai dit tout à l'heure, qui étaient rejoints par la Suisse et l'Italie. Donc ces 6 pays, c'est à la fois de très grands pays, avec des ressources importantes, comme la France et l'Allemagne, mais aussi des petits pays qui apportent une contribution très importante, parce qu'ils ont une longue tradition astronomique, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique... Et bientôt, sans doute, le Royaume-Uni qui se joindra au pays du VLT. On parle beaucoup de son adhésion probable pour l'année 2002. Donc les Anglais, qui avaient fait un peu bande à part en astronomie européenne, vont rejoindre le club des 8, et c'est très bien. Et le Portugal vient également de rejoindre, donc nous serons 10 dans les eaux d'ici 2 ans, très vraisemblablement. Et nous serons 9 dès le 1er janvier prochain, oui.
Très bien, Pierre Léna, je vous remercie. On vous invite une prochaine fois pour que vous puissiez venir nous décrire les planètes qu'on aura vues au VLT.
Oh, vous inviterez plutôt un spécialiste, hein, parce que d'abord, je passe la main aux jeunes maintenant. Nous avons à l'école doctorale d'Île-de-France des jeunes futurs astronomes extrêmement motivés, extrêmement brillants, et c'est eux qu'il faudra inviter pour vous en parler.
On vous remercie encore une fois. Au revoir, Pierre Léna.